Bienvenue dans les Clés du Sens, une chronique consacrée à la sémiologie, la science des symboles. Je suis Léa, et ensemble, nous allons explorer un territoire fascinant, celui des signes et des symboles qui nous entourent au quotidien. Elle nous révèle que chaque mot, chaque nom porte en lui une histoire extraordinaire. Et quoi de plus révélateur de nos représentations collectives que les noms que nous donnons aux animaux qui peuplent notre imaginaire? Cette année, je vous propose de plonger dans l'univers captivant de la symbolique animale à travers les noms de mammifères, en nous appuyant sur un ouvrage remarquable d'Henriette Walter et de Pierre Avenas, L'étonnante histoire des noms de mammifères. Car derrière chaque nom se cache bien plus qu'une simple désignation. Nos peurs ancestrales, nos admirations secrètes et nos mythes fondateurs s'y trouvent. Ces noms sont de véritables miroirs de nos sociétés et nous racontent comment nos ancêtres percevaient le monde animal, quelles vertus ou quels dangers ils y projetaient et comment ces représentations continuent de façonner notre langage et notre pensée contemporaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans les Clés du Sens pour vous parler du lion. Partons aujourd'hui à la découverte de cet animal majestueux qui fascine l'humanité depuis des millénaires. C'est sans doute son port altier et son ascendant sur les autres animaux qui ont impressionné les hommes, au point d'en faire le roi des animaux. Commençons notre voyage par l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes égyptiens, véritables bestiaires gravés dans la pierre, font souvent appel aux animaux. Le vautour, la chouette, le scarabée, le serpent et le lion qui y trouvent sa place plus tardivement. D'ailleurs, sur la célèbre pierre de Rosette, on distingue un lion couché dans le cartouche du nom de Ptolémée. Oui, car le lion correspond à la lettre L, première lettre de Laboy, le mot pour lion en égyptien tardif. Mais en égyptien ancien, le lion se disait roux. Le hiéroglyphe du lion couché pouvait donc se prononcer R. C'est pourquoi on retrouve son image dans des noms comme Darius, Arsinoé ou même dans le nom du dieu Ra. Passons maintenant à l'Europe. Voici un mystère fascinant. On ne connaît pas de nom indo-européen originel pour le lion. A-t-il été perdu? L'animal était-il inconnu de ces peuples? Pourtant, si vous êtes déjà allé voir les parois de la grotte Chauvet, vous pouvez admirer le célèbre panneau au lion. Et ça, il y a plus de 25 000 ans. Ce qu'on sait, c'est que les noms du lion en Europe viennent presque tous du latin Léo, lui-même emprunté au grec Léon. Curieusement, ce nom commence par la lettre L, comme en égyptien tardif. Seul le sanskrit fait exception, avec Simas, qui a laissé des traces géographiques remarquables. Saviez-vous que Singapour vient de Simapuram, la ville du lion en sanskrit? Parce qu'une légende raconte qu'un animal géant, pris pour un lion, aurait été aperçu lors de la fondation de la ville. Aussi, l'île de Ceylan, eh bien c'était autrefois Simaladvipas, l'île des Simalas. D'où le lion sur certaines boîtes de thé de Ceylan. Et alors, dernière anecdote, en hongrois, Roslan, qui vient du turc ancien Arislan, aujourd'hui Aslan. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Je laisse les fans de Narnia faire le lien. Le lion a aussi inspiré de nombreux noms d'animaux et de plantes. Quelques petits exemples. Le fourmilion, une larve enfouie dans le sable qui dévore les fourmis. C'est donc un lion pour les fourmis. Le pissenlit, appelé en anglais « dandelion », qui possède des feuilles découpées qui rappellent une denture de lion. D'où son nom savant, Léotodon. L'ancienne forme française « dent de lion » est ce qui a permis à l'anglais « dandelion ». Et le caméléon. On pourrait croire que ce nom vient du chameau, mais en fait, il vient du grec « kamai » à terre et « léon » lion. C'était donc le lion à ras de terre. Vous écoutez les Clés du Sens avec Léa sur Radio FM+. Avant d'arriver au Moyen-Âge, mon époque préférée et à l'époque des blasons, je vous propose un petit détour par la mythologie grecque, puisqu'on va voir que le lion y tient aussi une place de choix. Je vous propose de vous imaginer la déesse Cybèle. Elle fait partie de ses magna mater, ses grandes mères. Cybèle, elle nous vient d'un culte phrygien. Et dans ses représentations, on peut la reconnaître parce que son char est tiré par deux lions. Mais d'où viennent-ils ? Selon la légende, il s'agit d'Atalante et Hippomène, transformés en lions pour avoir profané le temple de Cybèle. Rappelons l'histoire. Atalante, c'est une chasseresse redoutable. Elle ne veut pas épouser un homme. Elle acceptera seulement d'épouser celui qui va la battre à la course, puisqu'elle est la plus forte. Hippomène, amoureux d'Atalante, réussit à recevoir de la déesse Aphrodite 3 pommes d'or. Il lui faut lancer les pommes pendant la course pour distraire Atalante. Il gagne facilement la course. Atalante avait envie de découvrir Hippomène. Mais le couple, emporté par la passion, commit le sacrilège de s'unir dans le temple de Cybèle. Et pour les punir, elle les transforme en lions, ses fidèles serviteurs. C'est une belle illustration de la puissance du lion, même lorsqu'il est né d'une malédiction divine. Bon, maintenant je vous emmène au Moyen-Âge, puisque dans l'héraldique médiévale, le lion règne en maître absolu. Quasiment du XIIe au XVe siècle, il apparaît dans 15% des blasons européens. C'est pratiquement la moitié des blasons représentant des animaux. Pour vous donner une idée, l'aigle qui arrive en second n'est présent que dans 2% des cas. Et je vous partage un petit proverbe du Moyen-Âge qui résume bien la situation. Qui n'a pas d'armes, porte un lion. Mais pourquoi un tel succès? Eh bien parce que les qualités attribuées au lion sont innombrables. Force, courage, grandeur et même symbolisme chrétien. Dans le Physiologos, le premier bestiaire et best-seller, le lion est qualifié de lion spirituel. En fait, on lui prête des pouvoirs quasiment miraculeux. Et oui, saviez-vous que ses yeux restent ouverts même quand il dort? Ce qui fait de lui un symbole de vigilance éternelle et on comprend mieux sa place au pied des trônes des grands souverains. Mieux encore, on raconte que le lion peut ressusciter son lionceau mort-né 3 jours après sa naissance en rugissant dessus. C'est donc un animal qui opère des miracles et qui ressuscite, une créature quasiment fantastique. Et puis, dans les blasons, le lion est représenté dans tellement de positions différentes que cela confirme son extrême popularité. Allez, je vais terminer par un exemple plus moderne que vous pourrez apprécier en sortant de chez vous la prochaine fois. Le lion Peugeot. La marque a adopté le lion comme emblème en 1847, quand Peugeot fabriquait encore des outils en acier et qu'il lui fallait un emblème pour symboliser les qualités de l'acier. Le lion incarnait 3 qualités des lames. Des dents fortes, comme les crocs du lion, parce que les lames étaient d'une robustesse exceptionnelle. De la souplesse, comme l'agilité du prédateur, on parlait d'une lame d'acier souple. Et une coupe rapide, comme le lion qui bondit sur sa proie. C'est comme ça que le lion a été gravé sur les scies dès 1850 et qu'il est devenu symbole officiel plus tard. Un emblème qui relie les racines industrielles de la marque à sa vision héraldique. Des grottes préhistoriques aux hiéroglyphes égyptiens, des blasons médiévaux aux logos modernes, le lion, vous l'avez vu, traverse les millénaires en incarnant toujours les mêmes valeurs. Force, courage, vigilance et excellence. Le roi des animaux reste aujourd'hui encore le roi incontesté de notre imaginaire collectif. Merci de votre attention et à bientôt. Ainsi, un seul mot nous raconte des millénaires d'histoire humaine, nos peurs, nos fascinations, nos projections. La prochaine fois, nous explorerons un autre animal et ses secrets linguistiques. En attendant, restez à l'écoute des mots qui vous entourent, ils ont tous une histoire à raconter.